Allez, voilà, ça enregistre. Bonjour à tous, et nous sommes aujourd'hui, nous sommes avec un patriote, sauf que nous sommes avec Yann Lefebvre, récent patriote, cela dit, et aujourd'hui interviewé en ta qualité de docteur, Yann, c'est ça?
C'est ça, je suis en effet médecin dans le Pas-de-Calais.
Et alors, as-tu une spécialité? Je t'ai même pas demandé.
Non, je n'ai pas de spécialité, je fais un peu de tout. Alors, je me suis formé récemment à la clinique du coureur. Donc,
Ok.
j'aime bien, j'ai appétence pour faire un peu d'ostéo-articulaire, mais ce n'est pas mon corps de métier. Je fais beaucoup de gériatrie, mais j'essaye de les remettre au sport.
Ah ouais, mais t'es médecin de
Je suis médecin
généraliste.
généraliste, ouais, je suis
Ouais.
généraliste. Je fais tout, en campagne.
Eh ben, nous avons aussi dans l'association de l'Élan Vouglanais un médecin généraliste. C'est celui qui gère le balisage des parcours. Voilà.
Impossible.
Eh ben, Yann, je t'avais sollicité. Alors, t'étais pas le seul. Il y avait deux autres médecins de la Ducermie qui m'avaient interpellé là-dessus quand je parlais d'une éventuelle intoxication alimentaire pendant l'UTMB, et tu faisais partie de ces gens qui m'avaient interpellé en me disant que c'était difficilement probable, parce qu'il y a des temps d'incubation qui en fait sont assez longs, c'est pas je mange un truc pourri, je vomis derrière, et du coup je me suis dit bah, ce serait intéressant de faire un podcast ensemble pour voir tout ce qui peut nous arriver en fait pendant une course, et c'est vrai que pendant un ultra-trail, bah, on peut rester une quarantaine d'heures dehors, donc là il y a des temps d'incubation du coup qui vont jouer, et donc tu vas
Exactement.
nous expliquer tout ça.
Bah, le plus gros risque de contamination, c'est surtout sur l'eau. L'eau, sur les ravitaillements, en fonction de là où on fait une course, la plupart du temps, soit ils prennent de l'eau en bouteille, soit ils vont se servir dans les ruisseaux, les rivières, choses comme ça. Et là, il peut y avoir des risques. Parce
Oui,
que.
alors, il y a un exemple très frappant d'entrée de jeu, c'est le Val d'Aran en 2021, je crois. Où tu avais énormément de coureurs hein, qui avaient été contaminés. Enfin, c'était terrible, c'était plus de 500 personnes. Et pour le coup, là, ils s'étaient ravitaillés dans une source et elle était foutue, en fait.
Ouais, parce qu'il y a probablement le plus fréquent, c'est les alpages qui sont juste au-dessus des ravitaillements, et là il peut y avoir des excréments, les urines, c'est de l'eau souillée en fait, et donc là il y a des risques. Il y a des risques de parasites, des giardioses, des E. coli, des choses comme ça. Ça, c'est des pour les temps d'incubation, ils sont assez courts, 24-48 heures, mais c'est pas de l'instantané non plus. Et c'est alors surtout pour E. coli, c'est plus fréquent. Les giardioses, c'est beaucoup plus rare, on va dire. Mais là, l'incubation minimale, c'est 7 jours par exemple. Et là, ça doit donner des symptômes de diarrhée, vomissement très fréquemment. C'est souvent les eaux contaminées, souillées et souvent des eaux peu fraîches. C'est-à-dire que ça peut être un élément si on se sert dans un cours d'eau qui est à température ambiante, méfiance.
Ah oui, ça c'est intéressant, parce que l'été, des fois, bon, on est pressé. Dans notre sortie, on est un peu coincé en eau, et c'est vrai qu'on là, on prend un peu partout, des fois elle est jolie, mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très fraîche.
Ben, ça peut être, alors, c'est pas gage de non-contamination, mais de l'eau à température ambiante, faut se méfier quand même. Parce que au-delà de 15-20 degrés, on sait que les germes vont se multiplier et donc ça peut multiplier la prolifération de ces germes-là. Ça, c'est important.
Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un certain nombre de germes qui sont toujours là, et avec
Toujours.
certaines conditions climatiques, ils augmentent, et c'est là où le corps humain peut plus les gérer et tu deviens malade, quoi.
Il y a un nombre de bactéries ou de virus qui se développent ou de parasites, et c'est en fonction de ce nombre qu'on va absorber, et là, l'organisme ne sera pas en capacité de les gérer, et donc ça va se développer.
Ok, ouais. C'est fou, ce truc de 7 jours d'incubation, c'est-à-dire que tu bois ton eau souillée. Tu fais ta vie pendant une semaine et d'un coup.
Alors là, c'est un cas particulier, c'est une giardia, c'est un parasite, c'est un giardia. C'est quelque chose, c'est comme, on va dire, pour faire très simple, c'est un. Comme un ver solitaire ou des choses de ce type-là qui se développent, donc il faut un certain processus de développement. Hein, d'accord? Pas comme sur
Oui.
une bactérie ou sur un virus qui sont là et qui sont déjà pathogènes. Il faut un temps de développement. Donc ça, mais c'est ultra rare.
Ah ok, ouais. J'allais te demander justement s'il y avait des petits cas particuliers, parce que tout à l'heure on a parlé de la salmonelle, et j'ai un ami qui l'avait eu, alors le médecin lui avait dit que c'était assez rare, mais bon, ça lui faisait une belle jambe,
Oui.
et ça l'avait tabassé.
Alors, la salmonelle, pour le coup, là, on ne va pas le trouver dans l'eau. Ça va plutôt être sur les ravitaillements, sur les aliments. Alors, là où il faut faire attention, alors quelqu'un comme toi, on va dire un élite, qui passe très vite et qui mange les ravitaillements en premier. Donc, les ravitaillements sont frais, sont posés
Ah
sur
oui.
les tables depuis peu. Ça sort potentiellement du frigo si c'est des grosses installations. Par contre, pour le milieu de peloton, voire la fin de peloton, les charcuteries, les produits laitiers. Tout ce qui peut être sur les ravitaillements, qui sont des plats préparés, les fruits frais, les jambons, les trucs artisanaux, ils sont restés sur les tables pendant des heures et des heures des fois. Et là, gros risque de contamination en salmonelle, en effet, et en listériose. Et là, ça peut faire mal. La salmonelle, chez quelqu'un normalement de sain, c'est une gastro et en 3-4 jours, ça passe. Chez quelqu'un qui est un peu plus faible ou qui a une pathologie, un petit peu un diabète, quelqu'un qui a un déficit immunitaire, là, ça peut faire des catastrophes et dont on parlait tout à l'heure, ou peut-être sur là, j'ai pas de référence là-dessus, mais sur des épreuves d'ultra-endurance ou des épreuves de très longue distance, le système immunitaire connaît une baisse majeure en post-course et donc c'est un nid à infection. Et donc, si quelqu'un s'est infecté pendant une course à salmonelle, là, ça peut faire des dégâts, très clairement.
Oui, parce qu'on parle souvent du petit rhume d'avant-course parce que on s'est beaucoup entraîné, on a récupéré et en fait il y a eu cette période où on a abaissé notre système immunitaire. Donc c'est pour ça que cet été je me suis gavé de glutamine, mais ça n'a visiblement pas suffi. Il y a une petite saloperie qui est passée entre les mailles du filet. J'en ai peut-être pas pris assez, je sais pas.
Impossible. Alors, et pour le coup, la salmonelle, c'est le temps d'incubation minimal. Mais il faut quand même, le minimum de chez minimum, c'est 5 heures. Donc, c'est pas impossible sur une course d'être contaminé et d'avoir des symptômes, comme tu aurais pu avoir à l'UTMB. Mais est-ce que ta potentielle contamination serait intervenue dans 5 heures précédentes? C'est là où c'est compliqué. C'est quand même beaucoup plus souvent des symptômes qui se développent dans les 24-48 heures. Mais la salmonelle est réputée pour un temps d'incubation minimal connu de 5 heures. Donc potentiellement, je ne dis pas que c'est impossible.
Bon après je pense pas parce qu'en fait le cardio haut pendant les 2, 3, 4 premières heures est largement plus haut que juste haut me fait penser à une infection que j'avais avant quoi. La VFC de la veille qui avait largement attaqué a chuté sans raison aussi. Donc au final
Potentiellement.
c'est pas ça mais c'est intéressant quand même de détailler les ravitaillements. Alors qu'est-ce que tu vois Yann comme piège sur le ravitaillement? Donc tu disais pour le milieu du peloton. Le souci, c'est la charcuterie et les petits morceaux de
Saucisson, jambon.
fromage.
Ouais.
Ouais. Parce qu'ils arrivent alors que potentiellement les choses sont sorties depuis longtemps. D'ailleurs, pour ne pas te le cacher, souvent le saucisson, il est dans une caisse sous la table et on le découpe au fur et à mesure. Donc il est longtemps dehors.
D'autant plus que la plupart du temps, maintenant, les trails essayent d'avoir des choses artisanales. Donc, ça a été fabriqué aussi dans potentiellement des conditions qui pourraient être un peu limites. Ce qui pourrait être préconisé, c'est de favoriser tout ce qui est des aliments secs, donc non périssables, et ou des produits qui sont emballés et qu'on déconditionnerait devant nous. Mais
Donc,
forcément, en course, c'est compliqué, quoi.
tu nous conseilles le tuc.
Ouais, le tuc, pour le coup. Le tuc, d'un point de vue listériose salmonelle, oui, il y a peu de risques. Le plus grand risque sur ces produits-là, c'est plutôt l'urine de quelqu'un qui se ferait pipi dessus, comme lors de ton dernier podcast. Hein. Là, ça pourrait.
Mais tout à fait. Alors, c'est le deuxième problème. Donc, le premier problème sur l'ravitaillement, c'est ben, vous n'êtes pas sûr, voilà, la chaîne du froid, machin, truc. Et le deuxième souci, c'est que avant vous, il y a des gens qui sont passés, dont un certain nombre sont des gros dégueulasses.
Exactement. S'ils veulent gagner 30 secondes et se pisser dessus ou plus, et ben là, par contre, il y a des risques de contamination. Alors là, il y a tout le panel des virus, des nouveaux virus, là, des Escherichia coli également, on peut en avoir. Et là, par contre, ben là, il n'y a pas de prévention possible. Hein. C'est de ne pas y toucher ou de ne pas les manger ou de se désinfecter ou de tremper le tuc dans un syndrome hydroalcoolique. Mais alors là,
Avait
attention,
hyper, hyper en goût.
ça va pas être terrible. Non. Là-dessus, ouais, ça, c'est un problème. Ou il faudrait que sur les ravitaillements, comme on en parlait tout à l'heure, les gens, les bénévoles, mais alors là, ça demanderait une logistique démentielle, que chaque bénévole, avec des gants le plus propre possible, donne les aliments souhaités à chaque concurrent. Alors là, moi, j'ai jamais vu ça.
Ben, alors justement, on en parlait avant, et c'est vrai qu'en lisant ce petit document de synthèse que tu m'as fait et qui du coup est disponible sur le Patreon, je me suis dit, en lisant les petites recommandations, à part celles qui sont drôles à la fin, mais je me suis dit, en fait, ça me fait penser au Lavaredo. Et c'est vraiment propre à la course du Lavaredo. Alors, je n'ai pas fait d'autres courses en Italie depuis l'ère du Covid. Peut-être c'est à cause de ça, parce que l'Italie a été pas mal touchés, ou peut-être pas forcément plus touchés, mais plus traumatisés, parce que c'est arrivé d'abord chez eux, voilà, puis avec les personnes âgées, ils avaient un peu galéré. Bref, donc au Lavaredo, j'arrive, premier ravitaillement, bon, j'avais juste besoin d'eau, donc j'ai pas capté, mais à la mi-course, je m'arrête manger un peu au ravitaillement. Et en fait, bah, le premier ravito où je voulais bouffer, je me suis pas arrêté, parce que j'ai vu des films plastiques, un tableau de films plastiques, et j'ai dit, bah merde, ils ont pas encore sorti le ravito. Après, bon, je commence à avoir très faim, donc au suivant, je m'arrête, je dis, putain, mais il y a encore ces films plastiques. Et là, je demande aux bénévoles, est-ce que je peux avoir à manger? Et ils me disent, oui, qu'est-ce que vous voulez? Et j'avais pas vu que le ravitaillement était derrière les films plastiques, et donc j'avais l'interdiction absolue de toucher. Et eux avaient des gants en latex, les petits gants fins, là. Et ils m'ont donné bah, ce que je voulais. Donc si je voulais une tranche de pain et un morceau de fromage, ils me donnaient ma tranche de pain et mon morceau de fromage. Mais du coup, même si j'étais dans les premiers, bah, il n'y a pas de gros dégueulasse qui était passé avant moi.
C'est le gros avantage. Là, pour le coup, ça va être, d'un point de vue sanitaire, je pense qu'ils ont un protocole sanitaire qui va être au top. Probablement. Mais ça, là, je pense, enfin, moi, j'organise pas de trail, mais toi, tu as cette casquette-là. Je pense que là, ça demande au moins deux fois plus de personnes sur le ravitaillement, au moins.
Parce
Et
que
encore,
nous.
là, ce que tu dis, ton anecdote, tu es arrivé, vous deviez pas être nombreux sur le ravitaillement.
On était. Une fois, on a été deux, c'est tout.
Ouais, donc imagine une moitié de peloton où il y a, je suppose, ça peut vite arriver 30, 40, 50, 60 coureurs en même temps.
Ouais, je pense, ouais.
Donc ça doit être une logistique tout de même compliquée à gérer. Mais d'un point de vue sanitaire, ça peut être bon. Alors après, il faut quand même se rassurer. C'est des choses qui sont quand même rares, mais ça peut arriver. C'est pas impossible.
Ouais, et ce que tu ce que tu disais sur l'eau qui stagne un peu à la chaleur, tu vois, avec beaucoup de coureurs, on s'est interrogé sur ces Soda Stream parce que c'est des bouteilles en plastique dur, très dur, donc tu les recycles pas, tu les réutilises. Et je me suis dit, mais en fait, comment ces bouteilles sont lavées et stockées? Parce qu'il y a cette étape-là, d'une course à l'autre. Quand ils les remplissent, ils le font quand? Une fois que les bouteilles sont remplies, est-ce qu'elles sont bien fermées? Est-ce qu'elles sont stockées au bon endroit? Est-ce qu'elles ne traînent pas sur une palette au soleil hein, avec un camion qui les a déposées 24 heures avant à proximité du lieu d'arrivitaillement? Tu vois, je me suis posé tout un tas de questions là-dessus. Est-ce que toi, dans ce processus, tu verrais un moyen de rendre l'eau qui nous embêterait au niveau du ventre?
Ce qu'il faudrait, en fait, c'est voir de où vient. Alors, est-ce que là, dans ce cas-là, avec la bouteille de Soda Stream, est-ce que ça serait l'eau en tant que telle qui serait contaminée ou plutôt le bord de la bouteille qui serait mal nettoyé? C'est beaucoup plus probable que ce soit la bouteille qui soit mal nettoyée, qu'il y ait un germe qui se développe dessus. L'eau en
Ah
tant que
oui.
telle, là, nous semble peut-être pas le problème, en fait. C'est peut-être plus le contenant. Le contenu, bon, il peut être géré, on va dire. Sauf ce qu'on a dit au tout début, mais le contenant qui peut être contaminé, ça, c'est une possibilité. C'est des bouteilles qui sont là, qui sont peut-être mal nettoyées ou qui sont peut-être nettoyées avec juste du jet d'eau et que ça peut être stagné comme ça. Il peut y avoir une prolifération de germes. Là, ça peut être quelque chose de très probable.
Ah, ok, ouais.
Mais
Ça prend
là-dessus,
là.
que faire? Encore une fois, bah, c'est. Ouais. Ou sur les organisations type UTMB, moi je sais que j'ai fait le Saint-Jacques là au mois de juin, j'ai trouvé ça très bien. Ils avaient des sortes de turbines avec, je sais pas, une rangée au moins de 20 robinets, c'était de l'eau du robinet qui se servait et chacun en fait se servait, se remplissait. Il y avait un petit robinet à chaque fois et hop, chacun se servait en fait de son eau. Ça c'était très très bien foutu.
Ah, c'est ce qu'on appelle une rampe à eau.
Ouais, c'était ça. Donc sur chaque ravitaillement, il y en avait une à deux. Et c'était vraiment bien fait. Et comme ça, les bénévoles ne géraient pas l'eau. Ils géraient uniquement le ravitaillement alimentaire. Et l'eau était gérée par chacun sur son petit robinet, sur cette fontaine-là. Et chacun gérait ça. Et c'était parfait.
Ouais, par contre, tu sais pas d'où venait le tuyau.
On ne sait pas de où vient l'eau. Là, ça, c'est la problème. Pour le contenant, là, il n'y a pas de problème. Pour le contenu, bah, petit bonheur, la
Alors,
chance.
est-ce que tu as regardé autour? Parce que je pense qu'ils font venir une remorque avec une très grosse citerne. Et les remorques, souvent,
J'avoue
sont
que.
fournies par. Typiquement, Vittel fournissait des citernes d'eau. Donc, au lieu de te filer un. Enfin, au lieu d'amener un camion sur ta course avec des bouteilles plastiques, Ils amènent des citernes d'eau, en fait. Et toi, après, tu te démerdes pour mettre une rampe à eau en tant qu'organisateur, et les coureurs viennent, paf, et à la rampe à eau, en fait, c'est de la vitelle, tu vois. Donc ça a eu
D'accord.
lieu sur le trail de la Cité de Pierre.
Je
Là,
sais pas,
t'as pas fait attention, ouais.
j'ai pas vu s'il y avait des camions. Il y a un ravitaillement. Par contre, j'avais vu que la bouche d'incendie avait été branchée. Donc, je pense que c'était l'eau des robinets. Alors, ils avaient dû voir ça avec les autorités, les pompiers. Ils s'étaient branchés là-dessus directement. Sur un des ravitaillements, j'ai souvenir de ça.
Ah, tu peux boire l'eau des bornes d'incendie?
Et si c'est de l'eau qui est traitée et qui est potable, potentiellement,
Oui,
ils ont pu
remarque,
faire des
c'est.
vérifications.
Enfin, de toute façon, en France, on a de l'eau potable partout, quoi.
Bah,
Tu tires la chasse
théoriquement,
d'eau,
oui.
c'est potable.
Théoriquement. Donc, il y a possibilité.
Ok, ouais. Du coup, Yann, est-ce que tu verrais quelque chose à rajouter quand on fait dérouler le petit doc là?
Bah, après, ce qu'il faut faire attention, ouais, c'est sur tout ce qui est l'hygiène personnelle, on avait dit, il n'y a pas trop sur les trails,
Oui.
il n'y a pas trop de toilettes. Donc, ça peut être fait en pleine nature, ça peut être fait comme ça. Et rares quand même sont les coureurs qui ont leur petit sérum hydroalcoolique pour se nettoyer les mains. Donc, il faut être vigilant, c'est à chacun aussi d'être vigilant de ça. Moi, je pense qu'il y a une recommandation qu'il y a à faire à tout le monde, à tous les patriotes, c'est quand on sert sur les ravitaillements, essayons de toucher et de manger que ce qu'on a pris. Si on prend et qu'on redépose et qu'on remet, non, là, il y a un risque. C'est à chacun aussi de se contrôler et de dire, bah, je touche à ça, je le prends, je le mange. Parce que sinon, on peut contaminer tout. C'est là où il faut faire un petit peu attention. Mais ça, c'est du civisme. Je pense que tout le monde essaye de faire à peu près attention à ça. Ça, c'est quelque chose qui peut être important.
Ouais. Alors, toujours pour revenir sur la période Covid qui nous a donné quand même quelques bons conseils. J'avais fait l'échappée belle, ils avaient pu l'organiser en août 2020. Et en fait, par contre, c'était hyper drastique. Et alors, ça nous avait choqués parce que c'était la première fois qu'on voyait ça. D'habitude, tu viens, tu te sers, tu manges. Et là, les bénévoles t'arrêtaient. Tu devais te mettre du gel hydroalcoolique. Et c'est eux qui te forçaient à le faire. Donc, ils t'en foutaient partout. Enfin, putain, j'en ai pris dans les yeux un coup. Et il faisait chaud, donc ça me brûlait les mains. Bon, c'était infernal. Mais est-ce que tu penses que c'est intéressant d'avoir sa petite fiole perso dans une poche du sac et éventuellement de trincer les mains? Peut-être pas juste en arrivant, mais en repartant du ravito? Si, en arrivant.
C'est plutôt en arrivant qu'il faudrait le faire. C'est plutôt
Ouais.
avant d'aller servir pour tout le monde pour éviter de contaminer. Parce que à la rigueur, tu dois aller aux toilettes pendant ta course, des choses comme ça, tu gères. Essayons de ne pas se retoucher à chaque fois le visage comme ça pour ne pas se contaminer avec nos propres germes. Mais ce qui est important, c'est l'hygiène par rapport aux autres. Donc, l'idéal serait de potentiellement se laver les mains avant le ravitaillement pour aller se servir, pour aller boire avec des mains propres. Et après, c'est surtout avant chaque ravitaillement que c'est important par rapport à la communauté. C'est l'idéal. Après, je peux comprendre qu'il y en ait qui n'aient pas envie de perdre un certain temps avec ça ou bien de ne pas porter une fiole pour pas qu'elle s'évacue, pour pas que ce soit une galère. Après, il y a une solution. C'est quelque chose, c'est de partir en autonomie complète, de partir avec tout son ravitaillement, ses gels, d'être le plus autonome possible. Alors, c'est possible sur des courses jusqu'à, je pense, au moins 80 km, mais après, ça commence à être compliqué de tout devoir porter.
Oui, après ça fait pas mal, ouais. Cela dit, c'est un conseil qu'on donne souvent parce que 90% des courses, en fait, tu ne sais pas du tout ce qui va se trouver sur le ravitaillement. Même, tu vois, même moi, en tant qu'organisateur, des fois, je dis, il va y avoir ça, ça, ça. Et en fait, 2 jours avant, on a un problème sur un produit, on va chez Satoris, bon, ben, il y a un truc qui ne l'avait plus, bon, ben, on l'a pas. Donc, c'est bien d'essayer d'être un maximum autonome, ouais, c'est vrai. Mais je trouve que le coup de la petite fiole sur soi, c'est pas trop emmerdant en fait. Quand on y réfléchit, ça peut le faire.
Ça peut le faire. Après, faut la mettre à dispo, faut pouvoir la stocker, faut pouvoir avoir quelque chose qui. Puis je pense qu'après, faut y penser aussi. Est-ce qu'on a la lucidité après 100 km de se laver les mains avant le ravitaillement? Bon, voilà. Là-dessus, je mets un bémol.
Et
C'est
tiens, oui, c'est ça.
ça serait l'idéal, mais bon, on peut comprendre aussi qu'il y en ait qui n'aient pas la lucidité de penser à ça.
Alors encore mieux, des fois tu as des gens, ils s'assoient sur la table du ravitaillement.
Oui, alors là, c'est
C'est quand on est
bon.
très fatigué.
Oui, là, ça peut arriver, ça peut arriver, mais bon, s'il s'étale sur le ravitaillement, il peut. Après, bon, je pense que
Ouais.
l'organisateur va pas être enchanté, mais c'est une solution, pourquoi pas.
Bon, qu'est-ce qui nous restait après, Yann?
Bah après, on avait évoqué un petit peu les différents parasites, les risques, mais alors là, on est plus sur l'hygiène, on va dire eau et alimentaire, c'était les risques d'infection. Dans les montagnes, dans les dans la nature, avec le, j'avais évoqué quand même la maladie de Lyme pour penser à Xavier Tévenard, pour dire un petit peu aux gens, pour les sensibiliser à ça, d'essayer de porter des vêtements longs et quand c'est possible par rapport à la chaleur, mais c'est surtout aux gens de s'inspecter après la course, de vérifier qu'il n'y a pas de tique et surtout, alors, s'il y a une tique qui est présente, on la fait partir, il y a des pinces tire-tique qui sont là, on ne s'affole pas, c'est quand même quelque chose qui est pas, c'est pas 100%, très loin de là, mais faut le connaître quand même. Et il faut savoir reconnaître, moi j'invite les patriotes à ne pas stresser vis-à-vis de ça, d'acheter une pince tire-tique qui est dans le commerce, en pharmacie, comme pour les animaux, ça se retire très facilement, il y a un petit manuel d'utilisation, donc vraiment pas de stress. Et à regarder, je les invite, vous tapez ça sur Google Images, érythème cutané migrant. Théoriquement, s'il n'y a pas d'érythème cutané migrant qui apparaît dans les 6 à 8 semaines post-piqûre de tique, il n'y aura pas de maladie de Lyme. Théoriquement, il y a des cas exceptionnels, mais vraiment regardez ça. Vous tapez érythème cutané migrant. En fait, ça fait un bouton comme une cible. C'est un bouton rouge avec une zone de peau saine, puis une zone érythémateuse tout au pourtour. Et ça signe potentiellement un risque de maladie de Lyme. Et là, vous consultez. On met la plupart du temps 14 jours d'antibiotiques et normalement, l'affaire est réglée. Normalement.
Ouais, c'est je rebondis sur un truc, ça a rien à voir, mais il y avait quelqu'un qui me demandait pourquoi il faut. Enfin, pourquoi souvent on a les jambes rasées? Alors, il y a évidemment un côté esthétique, ce serait faux de le nier, mais avec des jambes rasées, tu vois très très bien si tu as un tic.
Tu peux.
Enfin, ou épilé, bien sûr, mais enfin, sans poil, on va dire.
C'est quelque chose. La douche d'après-course permet de voir ça. Et puis, bah, voilà. Mais si on a une, surtout ne la retirez pas avec vos mains, quoi.
Ouais,
Il
parce
vaut
qu'on n'est
mieux
pas
attendre.
pressé, c'est ça,
Voilà.
Yann?
Il vaut mieux attendre 1 à 2 heures tranquillement. Ou des fois, elles sont tellement petites, on n'arrive pas à y accéder. Attendre qu'elles se gorgent de sang pour les retirer plus facilement. On n'est pas à 24 heures. C'est pas ça qui va changer. D'accord?
D'accord, donc on a tranquillement le temps d'aller à la pharmacie acheter la pince si on l'a plus.
Voilà, si vous n'avez pas votre pince sur vous, no stress, ne grattez pas, parce que alors là, le rostre, en fait, donc les 2 aiguilles de la bestiole, parce que c'est un acarien, vont rester dedans, et là, ça peut s'infecter en plus. Donc, no stress, prenez la pince tire-tique, et ça se retire très très bien, il n'y a pas de problème.
Oui, la pince, elle passe sous la tête. On fait un
Exactement.
demi-tour et
On
ça
tourne
le.
et on
Ouais.
retire.
Ouais, c'est très facile, ouais. Bon, après, je dis ça, j'ai pas de pince chez moi, faudrait que j'aille en acheter une.
Il y a ça partout, c'est
Ouais, je
vraiment.
sais. J'en ai une pour le chat.
Ouais. Bah, c'est la même, c'est
Ah
exactement
bon?
la même.
Ah bah
Mais
c'est bon alors.
tu peux utiliser celle-là. Ce qui est conseillé, c'est que si elle est servie pour les animaux, tu la désinfectes, tu la trempes un petit peu dans de l'alcool, et c'est la même, c'est exactement la même chose. Donc,
Allez.
aucun souci avec ça. Donc,
Putain, je peux pas la tremper dans la renarde du coup.
et il n'y a pas d'alcool. Donc, il faut
Ouais.
trouver quelque chose avec de l'alcool.
Après, t'as vite fait parler des maladies un peu exotiques. Alors, ça concerne peut-être que Robin Fournier, notre patriote qui court parfois en Afrique.
Alors là, il faut être vigilant, c'est l'eau stagnante. Là, il y a des risques de contamination à l'hépatite A, par exemple. Donc, dans les eaux stagnantes, là, il faut être vigilant. Alors là, je ne connais pas les territoires, mais si, par exemple, vous faisiez un trail dans des pays tropicaux, type Asie, et qu'il faut passer dans une bassine là où il y a de l'eau stagnante, là, attention, si vous pouvez l'éviter, c'est pas plus mal.
Ah, tu veux
Parce
dire
que.
de marcher dedans?
Alors, théoriquement, il faut faire attention parce que, surtout sur les trails, on a plein de petites blessures, en fait, sur les genoux, sur les choses comme ça.
Ouais, des griffures, ouais.
Exactement. Et donc, là, si on passe dans une bassine avec de l'eau stagnante où on voit un petit peu de moustiques, on voit un petit peu de choses, il y a potentiellement un risque de contamination parce que, par l'effraction cutanée, le germe peut rentrer et ça peut arriver.
Ah oui, donc même quand on court des fois comme des gogoles dans des flaques, c'est pas très intelligent en fait.
Alors, quand c'est des chaussures, quand c'est des choses comme ça, voilà, il y a quand même très peu de risques. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est si on doit marcher, je vais dire une
Ah,
bêtise,
une mare.
dans une mare, un truc comme ça, où la jambe peut être complètement immergée, là, il y a quand même un risque. Même par chez nous, on pourrait avoir un risque de contamination, par exemple, à la leptospirose, qui est présente chez les rats, dans les urines de rats, et là, on peut se contaminer.
Ah, c'est pour les Parisiens, ça.
Et ça peut, pour casquette verte, s'ils courent dans le réseau souterrain parisien, il y a un risque.
Ah,
Exactement.
lui dis pas ça, il a qu'une envie, c'est faire des trucs débiles comme ça.
Ouais, il peut tenter, il peut
Après son
tenter.
truc à Munich, là. Ok, ouais. Qu'est-ce qui nous manquait après?
Après, on en était où? Non, bah, sur les trucs un petit peu plus exotiques, bah, c'est ce qu'on avait dit, c'était surtout de vérifier ça. Après, si on fait des travails dans les pays exotiques, là, moi, j'invite les gens à aller vérifier avec l'Institut Pasteur les vaccinations, surtout. Parce que pareil, en Asie ou en Amérique du Sud, il faut quand même vérifier les vaccins hépatite A, typhoïde. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de vérifier les risques de contamination par le palu, par rapport aux moustiques. Ça peut quand même. À vérifier si vous faites des trails très loin, mais c'est pas bon pour la planète, donc évitez.
Sait-on
Voilà.
jamais, sait-on jamais.
Sait-on jamais. Mais non, après, bon, je pense qu'on a déjà pas mal balayé. Je regarde un petit peu. Il risque plus rien. Donc, bon, je voulais. Après, ce que je veux surtout, c'est quand même des choses très rares. Il faut les avoir en tête, mais il faut pas se priver de faire ces choses-là, quoi. Surtout, surtout.
Ouais, je pense que c'est bien de rajouter un peu de prévention, un peu de geste, on va dire,
Voilà.
conscient à notre pratique sans devenir complètement fou.
Bah, il faut juste en avoir conscience, savoir que ça existe, savoir que bon, il y a des règles minimales, mais il faut pas non plus psychoter quand on arrive au ravitaillement. Hein. Vaut mieux. Et je pense qu'il vaut mieux clairement manger quelque chose avec un petit peu de doute ou de choses comme ça, plutôt que de pas manger, de se retrouver avec une hypo et de finir complètement sur le bas-côté avec les secours qui doivent nous chercher.
Ouais. Si on met une alerte sur sa montre pour se laver les mains toutes les 10 minutes au gel hydroalcoolique, c'est qu'on est dans l'excès.
Beaucoup, voilà, là il y a un problème. Ou il
Voilà.
faut, ou moi j'avais une solution, mais c'est on met une flasque avec de l'agnole et puis on rince le gosier un petit peu, et là ça peut être sympa.
J'ai peur que ça attaque un peu le plastique.
Faut choisir le bon degré d'alcool.
Eh ben, super, Yann, je te remercie. Alors, du coup, pour les patriotes qui sont pas trop loin, toi, t'es dans le Nord-Pas-de-Calais, t'as couru d'ailleurs au trail de la Côte d'Opale, là.
Exactement,
Enfin,
on s'est dit.
t'y allais tranquille, quoi.
J'ai accompagné ma femme, c'était un défi qu'on s'était lancé à deux. En fait, c'est elle qui m'a inscrit hein, pour le sujet. On voulait faire le 42 et en fait, il n'y a plus de dossard. Du coup, elle a dit, bah, il y a un 85, je vous inscris. J'ai dit, OK, si tu veux. Et du coup, bon, bah, c'était alors 85 détaillé. Il y avait 21 le soir et le lendemain, 65.
Ouais.
Et on a pris un vrai temps de Pas-de-Calais avec des bourrasques de 70 km/h et du vent, tout ce qu'il fallait, et une pluie battante pendant 8 heures de long. Donc, c'était bien sympathique.
Ouais. Ça roule. Bah, je te remercie pour ce petit audio là, une petite capsule santé là, qui fera pas de mal avant de passer au trail de l'automne qui sont bien plaisants. Et puis voilà, on verra si ça peut servir à tout un chacun. Salut, Yann.
Merci à toi.